Bon, il y a un autre repas qui est devant vous. Donc j'espère que vous allez vous délecter dans vos prochains temps, dans vos rapports avec les Écritures. Le patripasianisme, ça parle à quelqu'un ? Qui connaît le patripasianisme ? Qui n'a jamais entendu parler ? Non, plutôt, qui a déjà entendu parler du patripasianisme ? Donc sur votre feuille, vous notez, je chercherai posément qu'est-ce que c'est que le patripasianisme, mais ce n'est pas du tout mon propos. C'est une hérésie du 1er siècle qui touche aussi à la christologie. Voilà. Donc, pour notre dernière intervention, donc je clique sur quoi, rappelle-moi ? À partir du début ? Voilà, super. Voilà. Quelques-uns m'ont posé la question, alors, qu'est-ce que je dois faire ? Quelle Bible je dois choisir ? Donc, c'est à partir d'une série que j'ai faite, la Bible, quelle version choisir ? Donc, comme je vous le disais, je suis sur un travail actuellement d'une traduction du Nouveau Testament. Donc, j'ai été recruté il y a 4 ans pour participer à une nouvelle traduction de la Bible qui s'appelle la Bible des racines hébraïques. Donc, j'étais très honoré qu'un éditeur vienne me demander pour participer à cette traduction. Il y en a qui connaissent la Bible BRH ? Non ? C'est pas grave. Et donc, c'était mon premier travail de traducteur pour cette maison d'édition. Et donc j'étais très honoré en même temps de la confiance qu'on me fait de faire ce travail. Et donc c'était mon première fois où je traduisais. Et quand on traduit, c'est important de savoir à quel public on s'adresse. Parce qu'en fonction du public que vous adressez, ça va orienter votre manière de traduire. Donc là, en l'occurrence, c'était pour un public qui s'intéressait aux racines hébraïques, qui aimait l'hébreu, enfin toi, tout ce côté un peu exotique. Donc on essaye de mettre tous les noms, d'hébraïser tous les noms, tout ça. Et puis c'était avec quelques notes, quelques introductions des évangiles. Mais je ne connaissais pas la ligne éditoriale. C'était assez nouveau pour moi. Et quand j'ai lu le produit final qui est sorti, j'ai vu les notes de l'éditeur et j'étais un peu embêté parce qu'en fait, je n'étais pas du tout en phase avec sa théologie et ce qu'il disait. On apprend de ses erreurs. Et puis quand j'ai fait ce travail, j'étais vraiment passionné, mais toujours quelques frustrations parce que voilà. Et puis je me suis lancé à faire ce travail de traduction de la Genèse, qui fait partie de mon top 5 dans mes livres préférés, Jean et la Genèse. Et donc j'ai fait tout le travail de la Genèse, qui est une traduction très littérale pour ceux qui veulent étudier le texte avec des notes. Et après, c'était un défi sur l'encouragement de plusieurs amis qui m'ont dit « Mais tu devrais faire ta traduction, ça devrait être super. » Ouais, c'est du boulot. Et puis en même temps, c'est une grosse responsabilité. Et puis je me suis lancé à faire cette traduction NTB. Donc, qui s'adresse, c'est ce que j'ai mis dans la deuxième diapo. Hop. C'est que quand on fait une traduction, c'est les questions qu'on se pose, c'est-à-dire quel public je m'adresse. Je le dis, parole de vie, on s'adresse à un public dont le français n'est pas la langue maternelle. Après, vous avez des traductions dites dynamiques. On le verra après. Il y a le choix des manuscrits. Là, on est dans toute la question de la critique textuelle. Mais on ne va pas rentrer dedans. C'est très complexe. Mais c'est aussi un choix de manuscrits qui va faire que pourquoi dans certaines Bibles, il y a certains versets. Et dans certaines Bibles, il y en a. Je vais vous rendre un exemple très concret. Dans certaines de vos Bibles, vous n'avez pas acte 8, verset 37. Je vais vérifier tout de suite. vérifier. Et je pense que dans certaines Bibles, il n'y a pas ce verset. Acte 8, verset 37. Il y est ? Entre parenthèses, ça veut dire pourquoi entre parenthèses ? Pourquoi ? Il y en a qui ne l'ont pas. Acte 8, verset 37. Entre crochets. Entre crochets. Et il y a des traductions, vous avez un crochet, trois petits points, et verset 37, vous n'avez pas. Et là, visiblement, vous avez des Bibles. Les témoins de Jéhovah ne l'ont pas mis. Parce que dans certaines familles de manuscrits, ce verset-là n'apparaît pas. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou pas bien. C'est certaines familles de manuscrits ont ce verset. Vous avez par exemple la fameuse discussion de la femme adultère dans Jean chapitre 8. Vous connaissez tous ce passage, Jean chapitre 8. Et si vous prenez Jean chapitre 8 dans vos Bibles, vous allez prendre même le chapitre 7 et le verset 50 et vous me direz si vous avez des crochets, un crochet, ou au début de Jean chapitre 8. Est-ce qu'il y a ça ? Oui ? Il y a un crochet. Jean 8. Soit le crochet, il est au début de Jean chapitre 7, le dernier verset. Parce que la péricope commence ici, Jean 7, 53. Et vous avez, à la fin du récit de la femme adultère, Jean chapitre 8, verset 11, je crois que c'est comme ça, vous avez la fin du crochet. Et donc ça comprend cet épisode de la femme adultère. Pourquoi entre au crochet ? Et la question que je vous pose, pourquoi ? Parce que dans les plus anciens manuscrits, ce texte-là n'y est pas. Et dans certains manuscrits, il y est. Alors, la question que vous avez posée, c'est, alors il est vrai ou il n'est pas vrai ? On pense qu'il est vrai. En tout cas, ce passage de la femme adultère s'inscrit magistralement dans le récit de Jésus, de la grâce. Jésus qui incarne cette grâce. Mais dans les manuscrits les plus anciens, ce passage-là n'y est pas. C'est pour ça que dans vos Bibles, en fonction de la traduction, vous avez des passages des fois qui sont entre crochets. Si vous avez une petite note, ça vous l'explique. Mais il y a certains autres manuscrits qui, eux, sont beaucoup plus amplifiés, où vous avez même des portions de versets. Donc, moi, j'ai fait ce choix, dans ma traduction, de les mettre entre crochets. C'est pour ça, il faut expliquer en même temps pourquoi. Et tout ça, et il y a plein de passages, Marc 9, verset 44, tout ça, enfin, il y en a plein. Ça va dépendre du choix de manuscrit. C'est un choix de traducteur. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, la question n'est pas. C'est simplement le choix du traducteur de la famille de manuscrits qu'il va prendre. Et enfin, il va y avoir la méthode de traduction. La méthode de traduction, qui est le public que je vise dans ma traduction. Vous avez généralement trois catégories. Vous avez soit vous adressez à des étudiants, à des gens qui étudient le texte biblique, et pour eux, la traduction, le juste choix du verbe, des mots, tout ça, c'est respecté. Alors, en ce cas-là, vous allez plutôt aller dans la Bible Hostie, qui est une traduction catholique, mais qui est une excellente traduction, qui est très précise. Ou alors Chouraki, mais il faut le décodeur. Ou alors la Darby. Et puis, vous avez, si vous êtes plutôt jeune ou débutant dans votre marche avec le Seigneur, voilà, Summer, Second 21, Colombe. Et puis si une personne n'est pas à l'aise avec le français, tout ça, vous avez Parole de vie ou Nouvelle Français Courant. Vous voyez ? C'est-à-dire que pourquoi il y a autant de traductions ? Elles s'adressent à autant de publics que l'on a. Et comme je vous disais, la question qu'on se pose, c'est on va essayer de trouver aujourd'hui, là où tu en es, et essayer de répondre à tes attentes, la traduction qui te correspond, pour que tu aies un bon outil de travail. Donc, très rapidement, parce que ça, vous ne l'avez pas, mais vous pouvez prendre des photos. Je vous ai dit, la famille, le choix des manuscrits, Juste pour faire très rapidement, je vous ai dit, le plus ancien manuscrit qu'on a trouvé, il date de 125, c'est un petit morceau de papyrus, voyez. Mais on a retrouvé, on vous a dit, 6400 manuscrits, extraits, petits morceaux. On a 6400 manuscrits. Et dans tous ces manuscrits, on les classe dans des familles. Ça, c'est la critique textuelle. Les quatre familles, vous les avez là. Vous avez la famille des Alexandrins, des Byzantins, occidentales et césaréens. Et je vous ai mis, par exemple, le texte alexandrin, leur particularité, c'est qu'il y a des absences, comme par exemple Matthieu, Marc 16, ça aussi, Marc 16. Vous savez, Marc 16, le fameux passage, Marc 16, si vous prenez vos Bibles, il y a, normalement, la fin de Marc 16, elle n'est pas dans les plus anciens manuscrits. Ça a été ajouté. Et tout ça, c'est des discussions de la critique textuelle en fonction de là où on se trouve. Vous aurez des crochets, évidemment, toutes les Bibles l'ont. Mais vous voyez, majoritairement, les traductions se basent sur le texte byzantin parce que c'est là où on a le plus grand nombre de manuscrits. Donc ça, je ne vais pas m'attarder sur ce point-là. Mais la méthode de traduction, on a deux méthodes de traduction qui existent. On a l'équivalence dynamique ou fonctionnelle, qui est un nom donné à un type de traduction. Donc ça, je crois que vous l'avez sur le lexique qui vous a été donné. Je vous ai fait une petite synthèse. Ce qu'on appelle une équivalence dynamique, une traduction dynamique, c'est une traduction qui va un peu faire de la paraphrase, qui ne va pas forcément faire un travail de traduction à proprement parler. Ce qu'on appelle dynamique, qu'on retrouve dans la Semeur, la Français courant, etc. Et puis l'équivalence formelle ou littérale, où là on veut vraiment calquer aux textes originaux. Donc là on va vraiment faire un travail de traduction, quelque chose de minutieux. Et là, effectivement, c'est le travail de Chouraki, de Darby, Osti, tout ça. Nous parlions du canon. Le canon, je vous ai dit, il existe des apocryphes. Alors, comme ce n'est pas quelque chose qu'on a eu le temps de voir, mais tous les documents photocopiés ont été donnés ? Non. Donc, on va vous les donner, puis vous les lirez posément. Donc, il y a un document qui concerne la formation du canon, de l'ancien et du nouveau, et la question des livres apocryphes, que l'on n'a pas évoqué. Il faut savoir qu'on parle des livres apocryphes pour l'Ancien Testament, c'est-à-dire que si vous achetez une Bible catholique, qu'est-ce qui fait la différence entre une Bible catholique et une Bible protestante ? C'est que simplement, dans les Bibles catholiques, vous avez ces livres en plus. Oui, parce qu'ils se basent sur la Septante. Donc il y a un décalage à partir du psaume 42, je crois. Donc il y a un décalage au niveau des psaumes parce qu'ils se basent sur la Septante ou la Bible hébraïque. C'est des petits détails. Mais la différence entre une Bible catholique et une Bible protestante, c'est que dans les Bibles catholiques, vous avez donc ces livres-là qui sont en plus, qu'on les appelle deutéro-canoniques, c'est dans la définition, deutéro-deuxième canon. C'est-à-dire que les catholiques ne les considèrent pas au même niveau que l'inspiration des 66 livres, qui eux, on ne reconnaît pas, mais ils sont dans un deuxième canon, vous voyez, à côté. Alors la spécificité, juste comme ça, dans une traduction catholique, c'est que même les catholiques, la théologie ou le vocabulaire catholique, des fois, transpire dans la traduction. Vous avez Romains 12. « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps en hostie vivante. » Bon. On en rigole, vaut mieux en rire. Mais pour dire que même la théologie catholique transpire dans la traduction. Généralement, on a en sacrifice vivant, mais comme pour les catholiques, on a toute la question de la transsubstantiation, vous connaissez ? Voilà. Donc forcément, la notion de sacrifice passe dans l'hostie. Et puis, quand il est dit dans Hébreux 4:14, « Ayez donc pour grand pontife Jésus, fils de Dieu. » Donc là, voilà, on voit que le vocabulaire catholique passe dans la traduction. Oui. Transsubstantiation. Transsubstantiation, c'est un terme catholique. En fait, c'est quand le prêtre va bénir le pain et le vin, il se transforme en véritable corps et au sang de en véritable corps et sang de Christ. Il y a quelque chose, une opération magique qui fait que le corps, que les éléments deviennent véritablement corps et sang de Jésus. Vous remarquerez dans les églises catholiques, des fois, au fond, il y a un petit coffret avec une lumière rouge. Il y en a qui ont déjà vu ça ? Tabernacle. Des fois, la lumière est allumée, des fois, la lumière est éteinte. Vous savez pourquoi ? Voilà. C'est-à-dire qu'il y a... Voilà. On ne jette pas l'hostie quand elle est bénie, comme c'est quelque chose de sacré, donc on le garde. Voilà. Voilà. Très bien. Il est là, le deuxième micro.
Excusez-moi, vous défilez assez vite les diapos, on a du mal à réagir. Donc j'avais plusieurs questions. Vous pouvez aller à la précédente diapo. Vous pouvez aller à la précédente diapo.
Celle-ci du canon.
Le livre de Baruch, c'est pas un oubli ?
C'est
il... C'est pas un oubli ou est-ce que la confession protestante reconnaît le livre de Baruch ?
Non, je pense que c'est un oubli. Le livre de Baruch, effectivement.
On dit Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse, Jérusalem, Jérusalem, chante et danse, je sais plus. Bon. j'avais une autre question sur une précédente diapo. Johanna, vous utilisez quelle Bible ? Toutes ? Et monsieur le pasteur, vous utilisez quelle Bible ?
À moi ?
Oui.
Non, j'en utilise plusieurs, mais j'aime bien. En tout cas, quand on me pose la question, qu'est-ce que tu me recommanderais ? Je conseillerais, c'est un conseil, hein, je n'impose rien, mais la traduction à la Colombe. Je trouve que c'est un bon compromis, c'est une bonne traduction. Traduction à la Colombe.
Parce que je connais une pasteur qui est très second 21, et quand vous dites que c'est pour des personnes qui ne sont pas au niveau, c'est-à-dire qu'elle n'est pas au niveau.
J'ai pas entendu.
Quand vous dites que pour la S21, la seconde 21, c'est pour des étudiants, oui. Des ados, et si je tombe sur une pasteur qui est aumônière, oui. Et qui ne prêche que par la seconde 21, ça veut dire qu'elle n'est pas au niveau ?
Non, c'est pas dire ça.
D'accord.
Si elle trouve son compte dans la seconde 21, c'est très bien. Je dis juste, si on veut étudier plus le texte, qu'on a le souci du juste choix des mots et des tournures, la seconde 21... Alors, on a en droit de me demander, mais prouve-nous. Donc, j'ai fait un travail sur Bibliorama qui s'appelle l'échelle Nalot. Je dois avoir ça. Voilà, c'est un outil que j'ai fait, qui permet de positionner. Alors, on retrouve l'équivalence formelle à l'extrême gauche et l'équivalence dynamique. Comme je dis. Ça ne veut pas dire que les Bibles sont moins bonnes. Ce n'est pas le but. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise traduction. C'est simplement ce que je recherche. Et donc, on va voir sur la règle. C'est pour ça que je vous dis, la colombe, elle est au centre. C'est un bon compromis entre les deux. Mais si tu regardes la seconde 21, elle est en quatrième position des dynamiques. C'est-à-dire que le travail de traduction qui a été fait est davantage un travail d'équivalence dynamique qu'un travail d'équivalence formelle. Donc, oui, c'est la diapo d'après, ça va être petit, mais il faut justifier. Donc, c'est tout le travail qui a été fait. J'ai pris 40 expressions de la Bible et j'ai regardé dans toutes les traductions comment elles l'avaient rendu. On va prendre 2-3 exemples. Genèse 2. Il y en a qui arrivent à lire ou pas? Vous voyez, vous avez le premier champ qui est la référence biblique. À côté, vous avez le mot grec ou le mot hébreu. Et puis, vous avez à côté pour la traduction hébreu-grec. Et quand c'est traduit littéralement, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un travail littéral, on n'interprète pas. Donc, c'est une traduction littérale. Et donc, j'ai fait ce travail sur toutes les traductions. Et sur les 40, une traduction qui sera très littérale, elle aura 40 sur 40. Alors, il n'y en a pas 40 sur 40, mais ce qui fait dire que la Bible la plus proche du texte original, ça va être Chouraki, après ce sera la Pléiade, Hostie. Mais la seconde 21, je dis, qui est une bonne traduction. Et il y a certaines formulations dedans qui sont très justes et qu'elle est la seule à traduire comme ça. C'est très pertinent. Donc je la recommande aussi. Mais elle n'est pas dans la méthode de traduction, dans la formelle. Ça va ? C'est un choix de traduction. On a parlé du canon, ça, je vais vous en dispenser. On a parlé de Jean 3,16 ce matin. On a parlé de... On a parlé de Junias, quelque chose que Johanna aime beaucoup. Junias ou Junia, en fonction des traducteurs. Junias, c'était une femme ou un homme ? Hein ? Alors, la Bayard va nous dire « Saluez Androquinus et Junia, Jean de Maras et compagnon de queue de pied. » Bon. Albert Rillet, saluer Androquinus et Junie, mes parents. Bon, on imagine si c'est ses parents, c'est un père et une mère. Mais là, on est dans l'interprétation encore aujourd'hui. On peut avoir deux parents. Martin 44, saluer Androquinus et mes cousins. Ah, si c'est mes cousins, en ce cas-là, c'est des hommes. Et la semeur. Salut Androquinus et Junia, qui sont du même peuple que moi. Bon, on ne sait pas trop. Donc, parmi les traductions françaises qui voient en Junias un prénom masculin, notons la NBS, qui l'insère dans ses notes en bas de page. Des fois que vous auriez compris que c'était une femme, on préfère vous mettre une note d'étude pour vous dire « Non, non, c'est un homme, faites-vous pas de fausses idées. » T'as lu l'article que j'ai écrit ? Eh bien, alors je le dis. Bah oui. Non, mais. Non, bien sûr. Mais pour dire qu'il y a des traducteurs qui sont malhonnêtes. Donc, que va dire la NBS ? Je crois que j'ai rajouté la NBS va mettre dans les notes saluer Andronikos et Junias. Qui sont de ma parenté, qui sont aussi mes parents de captivité. Ils sont très estimés parmi les apôtres. Ils étaient très... De même en le Christ. Ouais. Je ne sais pas trop ce que je voulais dire, en fait. Donc, Lamartin. Restez concentrés. Lamartin, la Bible Martin, que la Bible des témoins de Jéhovah traduit, et là c'est fort, saluer Andronikos et Junias, des membres de ma famille et mes compagnons de captivité, des hommes bien connus, des apôtres, et qui sont venus avec moi. Donc vous voyez, ça c'est typiquement de la traduction orientée. Là on est dans... C'est malhonnête. Et puis je vous ai fait en bas un petit condensé très rapide. C'est qu'en fait, il y a une règle en grec, c'est tous les prénoms qui se terminent par « as », comme Barnabas, Ananias, Elimas, pour ne citer que ceux-là. Et en fait, et c'est là où c'est intéressant d'aller consulter les plus anciens manuscrits de ce passage-là, de Romains 16, 7, et vous regardez la déclinaison du mot. Et vous voyez que c'est féminin, et que tous les manuscrits ont féminin. Donc, à moins d'être malhonnête et de faire entorse au texte et faire passer pour un homme, mais c'est malhonnête. Donc, c'est un couple apôtre. Que dire, la femme est un apôtre et l'homme. C'est, il faut insister sur le fait que c'est un couple. Donc la femme aussi fait partie. Elle est inclue. Effectivement. Ça va, pasteur Johannin? Bon. Que tu? Ah mais j'ai de la matière si tu veux. J'en ai fait un dernier que j'ai découvert. Colossiens 4, verset 16. J'ai rien trouvé. Enfin, comme j'ai cherché, j'ai trouvé. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on... Colossiens 4, verset 15. Saluez les frères. Colossiens 4, verset 16. 15. 4.15. Saluez les frères qui sont à Laodicée, ainsi que qui ça? Qui à Nymphas? La sœur Nymphas? Ouais, sœur. Vous n'avez pas sœur. C'est simplement la NFC en grec. Vous avez Adelphos, mais c'est ce qu'on appelle une lecture épicène. C'est surtout la Nouvelle Français Courant. C'est dans la Nouvelle Français Courant. Ceux qui ont la Nouvelle Français Courant, vous avez frères et sœurs. Ceux qui ont 21. Ah, ils sont corrompus aussi. Non, c'est qu'en fait, en grec, vous avez Adelphos. C'est-à-dire, dans le contexte, on comprenait par extension que quand Paul il dit « saluer les frères », que c'est aussi les frères et sœurs. On le comprend. Mais pour pas faire défaut, et en fait, c'est en même temps... Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est un choix de traducteur. Et la Nouvelle Français Courant a été dans cette dynamique-là. Et chaque fois que vous avez frère, pour pas discriminer les femmes, vous trouverez systématiquement frère et sœur. Donc saluez tous les frères et sœurs. Vous savez, vous avez dans Romains, je ne veux pas que vous ignoriez, frère, ce qui concerne. On comprend, d'ailleurs, frère, que c'est frère et sœur. Donc, la Nouvelle Français Courant NMC, pour une question d'équilibre, on rajoutait frères et sœurs. Mais vous ne l'avez pas en grec. Mais vous comprenez que derrière frère, il y a frères et sœurs. C'est clair? Voilà. Et donc, pour revenir à Colossiens 4, 15, donc saluez les frères, entre parenthèses, et les sœurs, ferme la parenthèse, qui sont à Laodicée, ainsi que Nymphas. Qui a Nymphas? Et qui a Nympha? Nympha, c'est une femme. Et qui dit quoi? Intéressant. Hein, ouais. Mais plus ancien en Nympha. Et c'est une femme. Et ça aussi, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont relevé. Donc moi, mince. Mince. Et donc, c'est Nympha, c'est une femme. C'est une femme qui était responsable d'une église de maison. On pense que c'était une femme veuve, riche, et qui ouvrait sa maison. Donc vous voyez, mais cette nymphase, on ne dit pas grand-chose. Et souvent, on met un S, et on le lit comme si c'était un prénom masculin, salué nymphase, parce que c'est évident que c'est un homme qui est responsable d'une église de maison. Mais dans ce cas-là, ça peut être aussi une femme. Nymphase, nympha. Donc ça, c'était pour... Maintenant, il y a beaucoup plus grave. C'est que quand on veut traduire à l'air du temps, et vous savez que je crois que dernièrement on a enterré l'idéologie wokisme, en tout cas au niveau de l'écriture inclusive, mais il y en a qui ont osé. Et j'ai découvert cette traduction des quatre évangiles faite par l'écriture inclusive. Et j'ai eu la chance d'avoir cette femme au téléphone pour qu'elle m'explique comment elle en est arrivée là. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est là où on voit jusqu'où le délire peut aller. Alors, j'ai pris deux exemples. c'est j'ai mis, hop, j'ai mis quand le wokisme tente de s'infiltrer. Vous voyez, il arrive à lire. Et donc, vous avez le fameux passage de Matthieu 18 sur la question du divorce, où il est dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, verset 11, il leur répondit, toutes, vous voyez, c'est l'écriture inclusive, donc c'est presque illisible, c'est tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Et là, verset 12, lisez bien. Car il y a des personnes non hétérosexuelles qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les gens. Et il y en a qui se sont rendus tels, yel, enfin c'est illisible. Mais vous imaginez. Là, on n'est pas dans un travail de traduction. C'est très malhonnête. C'est, en fait, on veut faire de la traduction dans l'air du temps. C'est pas justifié. Bien sûr, sans vendre sur Amazon.
Ne l'achetez
pas. Non, ne l'achetez pas. Non, c'est l'écriture inclusive, c'est les quatre évangiles. Pour dire que tout existe. Mais là, on est véritablement dans quelque chose de, oui, de diabolique. C'est... Dieu s'occupe d'eux. Tu n'as pas besoin d'avocat. Mais non, c'est juste pour dire que tout existe. Il y a un dernier exemple qui est aussi... Le but de l'écriture inclusive, là, la traduction, c'est surtout de vouloir féminiser le texte. Donc, c'est du féminin au masculin. Du masculin au féminin. C'est-à-dire qu'on veut... La volonté de la femme qui est derrière, c'est vraiment de féminiser, de montrer un Dieu... D'ailleurs, je crois qu'elle traduit le Dieu père-mère. Bon, il y a un côté père, il y a un côté mère en Dieu, il n'y a aucun souci. Mais on veut féminiser au maximum le texte. Donc il y a un texte très connu, de Marc 16, que vous connaissez tous. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc en mon nom, non, juste en mon nom, il. Ah, c'est embêtant, c'est masculin. Il. Et les femmes, elles sont où? Oui. Donc il faut faire preuve d'ingéniosité pour pouvoir féminiser ce texte. Je vous le montre. Voilà. Voici les signes et les miracles qui accompagneront les personnes qui ont recru. En mon nom, elles chasseront les démons. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça admirable. Oui, mais il faut faire preuve d'ingéniosité et vous féminisez le texte. Je trouve ça formidable. Vous voyez, mais là, c'est vraiment de la traduction malhonnête. C'est-à-dire, si vous voulez l'acheter parce que vous voulez écrire un article, tout ça. À la rigueur, ce que vous pouvez faire, je vous fais gagner de l'argent et du temps. Vous allez sur Bibliorama, vous tapez sur Google Bibliorama, les quatre évangiles au féminin. Je vous ai fait une présentation et puis j'ai dit ce que je pense et j'ai mis les. Mais tout existe. Alors, dans l'interprétation, on prend un exemple classique de. Vous pouvez prendre vos Bibles dans 1 Timothée 3. Puis vous regardez dans votre traduction laquelle qui, où la vôtre se retrouve dans les propositions que j'ai faites. On peut tout. Non, je ne pense pas que cette traduction ait une grande influence, franchement. Je ne suis pas sûr qu'elle soit connue. Ça a le mérite d'exister, mais c'est pas. On n'a pas trop à craindre. Je ne pense pas que les gens vont acheter ça et que des gens vont justifier certaines choses injustifiables avec cette traduction. Je ne crois pas. Je pense à quelqu'un qui a osé faire quelque chose, qui s'inscrit dans l'air du temps. Mais c'est l'idéologie wokiste. C'est, voilà. Donc 1 Timothée 3:2, c'était aussi un exemple très concret pour voir sur la manière de traduire selon que l'on comprend du contexte. Donc le contexte, c'est Paul va dire à Timothée, si quelqu'un aspire à la charge d'épiscope, c'est-à-dire d'ancien, de surveillant, c'est une bonne chose. Mais voilà, il y a des critères à remplir. Et il va dire il faut que le responsable soit irréprochable. Et il doit s'être marié une seule fois. Ah, c'est embêtant. Si vous prenez Jaguère, il faut qu'il n'ait été marié qu'une fois. Donc en fait, ça en disqualifie pas mal. C'est-à-dire, si vous êtes un remariage, vous, si vous avez cette traduction, en tout cas, vous ne pouvez plus prétendre à une responsabilité d'ancien. Si vous prenez la Taube, il faut qu'il soit mari d'une seule femme. La Colombe, mari d'une seule femme. La NBS, qu'il soit l'homme d'une seule femme. Et second 21, il faut qu'il soit fidèle à sa femme. Alors, à partir de là, ce qu'on va retrouver, en fait, c'est 5 interprétations possibles qu'on peut tirer de ce passage-là. Le premier, bah, c'est forcément le refus de la polygamie. Parce que si la NBS dit il faut qu'il soit mari d'une seule femme, bah, celui qu'on a 3-4 est disqualifié. C'est là une interprétation qu'on peut donner en fonction de cette traduction. Mari d'une seule femme. Donc, les polygames, voilà. Deuxième, il ne doit pas avoir connu une deuxième femme, c'est-à-dire par le remariage ou ayant été veuf, c'est ce que la parole de vie et la Bible Jaguère semblent aller dans ce sens, il doit s'être marié une seule fois. Et l'Église grecque y voit l'interdiction du second remariage. Et Woolworth et Zuck, qui sont des théologiens, des commentateurs de la Bible, interprètent disant que le candidat ne devra s'être marié qu'une seule fois. Troisièmement, en fonction de la lecture, le divorcé, il est forcément disqualifié pour la charge d'ancien d'une assemblée locale. Quatrièmement, l'exigence du mariage exclut donc d'office les célibataires. C'est aussi la lecture qu'on peut faire. Ce qu'il dit doit être marié d'une seule femme. Donc vous pouvez comprendre que celui qui n'est pas marié, il ne peut pas prétendre. Donc l'exigence du mariage exclut donc d'office les célibataires. Le célibat des prêtres ne tient donc pas non plus. Certains commentateurs catholiques ont vu ainsi que l'évêque doit être mari d'une seule femme, interprétant pasteur d'une seule église. C'est l'interprétation que les catholiques en font. Ah ouais, faut le savoir. Et enfin, 5, l'interprétation qui me semble la plus plausible est celle de la fidélité à sa femme, ce que rend, pour le coup, très clairement, la seconde 21. C'est-à-dire que la seconde 21 ne fait pas une traduction littérale, mais en tout cas, elle rend le sens qui, à mon sens, est le plus juste. Et donc, tout en bas, si on voulait traduire littéralement, cela donnerait un homme ou un mari, un aner, c'est soit un homme ou un mari, qui aime une seule femme. Ça, c'est littéralement ce que le grec dit. Un homme qui aime une seule femme. Voilà. Et vous voyez qu'en fonction de ça, chacun va traduire ce qu'il croit. À partir de là, on a plusieurs interprétations. Mais je pense que là, dans le coup, la seconde 21 dit plus que l'homme doit être fidèle à sa femme et l'aimer. Et ça, ça rassure les femmes, n'est-ce pas? Bien sûr. On parle du paraclète. Vous avez Jean 14, 16, qui est aussi un des mots-clés très techniques de la Bible. C'est quand Jésus dit « Et alors je vous enverrai un autre consolateur. » Mais des fois, vous avez, là j'ai pris pratiquement tout ce qui existe, « Je vous enverrai un autre consolateur, un autre défenseur en justice, un autre directeur, certains disent, un autre paraclète. » Paraclète, là c'est vraiment le mot grec, c'est-à-dire le mot grec « paraclète ». Donc, on ne veut pas se tromper, paraclète, mais quelqu'un qui va lire « Je vous enverrai un autre paraclète », c'est ce que j'ai choisi dans la Bible, de mettre ça. Je vous explique pourquoi. Témoin de Jéhovah, « Je vous enverrai un autre assistant », et parole vivante. Parole vivante qui est Alfred Kuhn, qui est une traduction amplifiée. Je vous enverrai quelqu'un d'autre pour vous conseiller et vous défendre. Voilà. Et comme je vous disais, le grec dit parakletos, littéralement, celui qui est appelé à côté de nous. C'est-à-dire que si vous traduisez consolateur, c'est pas faux. Mais c'est un des aspects du paraclète, de consoler. Si vous dites défenseur, comme un avocat, il va vous défendre, c'est pas faux. Mais c'est un des aspects du paraclète. Et si vous dites directeur ou avocat ou conseiller, c'est bien. Mais en fait, c'est un mot tellement riche, paraclète, que si vous traduisez par avocat, il y a une certaine déperdition. Donc sur certains mots techniques comme ça, on peut faire le choix de garder paraclète et en bas, vous mettez une petite note en disant « Voilà, ça veut vouloir dire ça, ça veut vouloir dire ça, ça veut aussi vouloir dire ça. » Et vous gardez ces mots qui sont très techniques, qui sont difficilement traduisables. Là aussi, on va rire un petit peu. Si vous prenez la seconde 21, vous savez, Élie, il est appelé au désert et Dieu va dire « T'inquiète, je vais t'envoyer des corbeaux, ils vont t'amener de la viande et tout ça. » Et si vous prenez la Bible Bayard, vous lirez « Il y aura un torrent où tu pourras boire et pour la nourriture, j'ai ordonné aux Arabes de t'en charger. » J'ai ordonné aux Arabes de t'en charger. Quel rapport ? Quel est le lien entre les corbeaux et les Arabes ? Et comment la traduction Bayard en arrive à traduire le mot corbeau ? Ça fait rire. Hein ? Bon, effectivement, la traduction Bayard, elle est très intéressante, mais c'est des gens qui sont en même temps libéraux et qui ne sont pas forcément chrétiens et qui ont tendance à réduire le côté miraculeux de Dieu. Parce que dans ce récit-là, c'est quand même, il y a la souveraineté de Dieu, mais il y a le côté miraculeux, où c'est des corbeaux qui sont mandatés pour amener de la nourriture à Élie. C'est miraculeux. Mais c'est un côté un peu trop. Tandis que là, on est plus terre-à-terre. J'ai ordonné aux Arabes de t'en charger. Là, bon, ça aurait été ça, on ne verrait pas le côté miraculeux. Alors, on arrive à, effectivement, sans les points voyelles, et là on parlait tout à l'heure des massorètes, les massorètes, parce que le texte hébreu à l'origine, il est comme je vous ai mis le petit carré là. Vous savez, vous n'avez pas les points voyelles qui permettent la ponctuation, qui permet la vocalisation et les voyelles. Ça s'appelle le travail des massorètes qui a été fait un peu plus tard pour la prononciation. Mais si vous enlevez les points voyelles, le mot hébreu peut vouloir dire corbeau ou arabe. Le mot, là, ce que vous voyez écrit, c'est aravim. Aravim. Une telle compréhension des Écritures est normale de la part des libéraux qui tendent à nier le caractère miraculeux que Dieu peut opérer à travers les récits bibliques. Il est donc dans notre intérêt, dans de quel cas, de consulter le latin de la Vulgate, qui est une traduction du IVe siècle, et de voir comment le texte hébreu a été traduit, parce que là, on est dans la Première Alliance, donc c'est un texte qui est écrit en hébreu, et la Vulgate, Saint Jérôme traduit de l'hébreu vers le latin. Donc c'est intéressant de voir comment Saint Jérôme a traduit ce mot. Parce que si ça aurait été véritablement des Arabes, ça aurait été un autre mot. Et donc on voit qu'il employa le mot corvisque, qui signifie corbeau. Ou bien encore dans la Septante, la traduction grecque, qui est même plus intéressante à la Septante, parce que la Septante, je vous dis, c'est 300 avant Jésus-Christ. C'est le travail qui a été fait pour la bibliothèque d'Alexandrie. Donc là, on avait demandé aux sages d'Israël, les 70, de traduire le texte hébreu vers le texte grec. Et là, il nous est dit qu'il a traduit korakès, qui veut dire là encore des corbeaux. Donc on voit que c'est vraiment malhonnête de la part de la Bayard de traduire par des Arabes. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le mot arabe, c'est un mot qui est calqué sur le mot corbeau. Parce que si vous regardez en hébreu, s'il y en a qui ont fait des notions, A, R, B. Aravim. Aravim, c'est des corbeaux. Donc A, R, V. Et le B, Et Dagesh, il veut dire, c'est un V, c'est la lettre bête, mais il se prononce B. Mais sinon, ça fait quoi? A-R-B, arabe. Vous voyez? Donc c'est un choix. Là, on voit pour le coup, c'est malhonnête. Donc ne prêchez pas, si vous êtes appelé à prêcher sur un Corinthien, ne prenez pas la bagarre. Ça serait plutôt embêtant. Oui. Il ne les place pas au même point. Il les met, même Luther. Enfin, c'est toute une question. Vous avez tout ça dans les feuilles qui vous ont été remises. Vous avez donné toutes les feuilles sur le... Mélanie. Voilà, vous avez tout. Vous avez un documentaire sur les apocryphes et vous verrez. Et la question des apocryphes, même Luther qui est le père des protestants, dans sa traduction de la Bible en allemand, a inséré les livres apocryphes. Il les avait traduits. Mais il met un avertissement. Et on va dire... Dans les Bibles protestantes, jusqu'au 19e siècle, je crois, si vous achetiez une Bible, vous aviez les livres. J'ai une Bible Martin à la maison, il y a les livres apocryphes. Simplement, vous avez un avertissement qui vous dit, nous les mettons à titre culturel et historique, mais ils ne sont pas à prendre. Voilà. Pour ça, il faut avoir une autre appréhension sur les livres deutérocanoniques. J'ai plein d'exemples, mais j'essaie de prendre les plus pertinents. Celui-là, il est intéressant. Protévangile. Donc l'évangile de Genèse 3,15. Donc il y a eu la chute, et Dieu va dire à la femme, je mettrai inimitié entre toi, enfin au serpent il dit ça, je mettrai une haine entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il t'écrasera la tête, il te blessera le talon. Et majoritairement dans vos traductions, vous avez « elle t'écrasera la tête ». Oui ? En fait, je les ai classés en haut, c'est tous ceux qui utilisent le pronom masculin « il t'écrasera la tête ». Toutes les familles second ainsi que Tob, ils disent « elle t'écrasera la tête » et français courant, regardez bien, je mettrai hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance, la sienne c'est quoi ? La baïare, je vous ferai ennemi, toi et la femme, tes enfants et ses enfants, ils viseront ta tête, et plus grave encore, la dernière, donc parole de vie, c'est pour ça que je mets certaines réserves à parole de vie, qu'est-ce qu'elle dit ? Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront la tête. Alors là, on peut se poser, ceux qui naîtront d'elle, c'est qui ? C'est nous, par extension, c'est tous ceux qui vont naître. Donc, c'est un texte très important, c'est ce qu'on appelle le protévangile, c'est-à-dire c'est la première annonce du salut qui est donné à la femme, qu'un jour, son descendant, en l'occurrence le Messie, écrasera la tête du serpent. Donc, la traduction juste en hébreu, il t'écrasera la tête. Et comprenez, dans le il, c'est le Messie. Maintenant, pourquoi majoritairement dans vos traductions, vous avez elle t'écrasera, parce que quand on est passé de l'hébreu au grec, on a traduit ta semence, ta sperma, qui est forcément féminin. Donc, cette semence, elle t'écrasera la tête. On ne peut pas le savoir. Mais c'est pour ça que certaines traductions gardent il. C'est un détail. Mais là où c'est grave, c'est quand vous allez vous trouver ceux qui naîtront d'elle. C'est-à-dire que là, c'est plus l'œuvre du Messie, c'est-à-dire l'œuvre d'un homme, ce qu'accomplira notre Seigneur Jésus à Golgotha. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est l'homme, c'est les descendants qui seront à un moment, peut-être par leur sagesse, peut-être par... seront capables de s'affranchir de cette malédiction. Donc, vous voyez, là, par contre, ça a des incidences quand même assez graves. Et je vais te laisser la parole. Et tu retrouves donc ça, typiquement, dans la traduction catholique et dans tout ce qu'on retrouve. Et vous verrez, quand vous verrez des vierges, souvent vous voyez la vierge qui écrase la tête du serpent et qui tient l'enfant Jésus dans les bras. Mais c'est la femme, Ève, qui est Marie, étant la deuxième Ève, qui accomplit cet acte à cause de cette mauvaise traduction. Donc, vous voyez, ça peut avoir des conséquences, en fait... Et je termine avec ça pour justifier que il t'écrasera la tête. Il y a un principe qu'on appelle en gématria. La gématria, c'est qu'en hébreu, un chiffre ou une lettre, on n'est pas dans la numérologie ou des choses comme ça, je suis au clair. En hébreu, le A vaut 1, le B vaut 2, le Dalet vaut 3. Et si vous prenez une montre en hébreu, vous n'aurez pas des chiffres, vous aurez les lettres. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Eva. Parce que c'est alpha numérique. Et donc, il y a une exégèse juive qui permet, quand vous prenez un mot, là, en l'occurrence, on va prendre le mot serpent, parce que Dieu va dire au serpent, il t'écrasera la tête, le Messie. On prend le mot serpent, narash, et on additionne le nun, le ret et le shin, qui sont les trois lettres. Et ces trois lettres, quand on additionne les valeurs, ça fait 358. Et on se pose la question, enfin, les rabbins se sont posés, c'est qui est celui qui écrasera la tête du serpent ? Réponse ?
Le Messie.
Un autre mot possède également la valeur 358, il s'agit du mot Machiar. En hébreu, le Messie. Il y a donc une relation entre le serpent et le Machiar. Et les sages d'Israël posent en effet la question de savoir qui sera celui qui écrasera la tête du serpent. La réponse est le Messie au prix d'une blessure au talon. Et la résurrection montre qu'effectivement, même dans ce détail-là, Jésus qui a été crucifié avait eu... Parce que ça aussi, on est souvent conditionné par les imageries de la crucifixion où on imagine Jésus avec des clous dans les paumes. Les clous étaient ici et pas dans la paume. Au départ, peut-être qu'on clouait dans la paume, mais vous savez que des crucifiés pouvaient rester 3-4 jours en croix. Et en fait, la nuit, je pense, on peut difficilement se mettre à la place, mais on préférait se déchirer la main, un grand coup, crac, et puis vous partez. Et les Romains ont vu qu'à un moment, il y avait des croix qui étaient vides. Donc pour être sûr que le crucifié reste... On a la crucifixion, même les Macédoniens pratiquaient la crucifixion. Les crucifixions, c'est pas venu avec les Romains au temps de Jésus. Il y en a eu énormément. Et comme au temps de Jésus, le principe de crucifixion était déjà bien établi, donc on clouait ici. Et quand le clou est mis là, c'est fini, vous ne pouvez pas vous déclouer. Donc Jésus, ses clous étaient là. Et au niveau des pieds, il y avait un petit patibulum et il était comme ça. Il y a quelques représentations qui sont assez fidèles qui montrent ça. Et effectivement, le clou prenait les deux talons. On a retrouvé des vestiges archéologiques dans les années 68, je crois, un petit ossuaire où dedans il y avait le père et son fils. Et on a retrouvé un os avec le clou encore, un clou grand comme ça. Et on s'y a permis de voir qu'effectivement, le crucifié était dans cette position-là et le clou transperçait les talons. Et pour vous dire, quand vous mettez en situation, il y a tout un travail qui a été fait pour montrer le supplice qu'était la crucifixion. Voilà. Mais pour dire qu'à ce détail près, la prophétie s'est réalisée à travers du Messie. Vous voyez ? Donc, là encore, c'est une question de traduction.
Du coup, juste ma question à rapport
oui.
à ça, c'est pourquoi ne pas avoir mis le Messie ? Ou pourquoi n'avoir pas mis... Parce que là, c'est vrai que ça porte à confusion dans le sens où, selon nos traductions, par exemple, la seconde 21, c'est ta descendance et sa descendance, donc c'est sûr qu'ils l'ont mis au féminin, parce que ça n'aurait pas eu de sens de
ta
mettre
semence. Au... T'es obligé de conjuguer au féminin.
Donc pourquoi avoir pas mis le Messie ou bien il...
Non, parce que là, c'est dans l'interprétation. Le texte ne dit pas textuellement que c'est le Messie. Il dit « il ». Il utilise un pronom l'hébreu. « Il t'écrasera la tête ». Tu vois, nous on peut interpréter, mais voilà, c'est toute la question de du comment on va dire, au commencement était la parole. Si j'ai traduit au commencement était la parole c'est féminin, donc forcément je veux dire, elle était au commencement avec Dieu. Alors certainement notre ami de tout à l'heure qui est wokiste, ça lui conviendrait. Elle était au commencement avec Dieu, mais c'est féminin. Or, il est question de la parole, du Christ, du Fils préexistant. Donc, ce serait plus adapté d'utiliser un pronom masculin. Là, les catholiques, sur le coup, usent du... Au commencement était le Verbe. Au commencement était le Verbe était avec Dieu. Vous voyez ? Donc, vous conjuguez après « il ». J'ai gardé le concept du logos, qui est aussi masculin. Mais c'est un choix du traducteur. Le mot grec dit logos. Le grec dit logos. Après, il faut comprendre, dans le contexte du premier siècle, le concept du logos, qui est aussi... c'est un choix de traducteur. Comme ce sont des mots très techniques, j'ai préféré garder... le mot « logos ». Après, il y a une petite note qui développe, mais après, c'est comme tout. Oui. 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 Ouais. C'est un choix de traducteur. Je voulais revenir tout à l'heure sur, parce que je ne l'ai pas mis sur la diapo, mais « agapé philéo ». On va reprendre ensemble le passage de Jean 21. Ça, c'est une clé dans votre lecture. Jean 21, au verset 15. Et on terminera avec ça. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il dit « Paix mes agneaux ». Il va lui dire une deuxième fois. Et la troisième fois, il va lui dire « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Et Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois « M'aimes-tu ? » Il répondit « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Prends soin de mes agneaux. » On traduit le mot « aimer » alors qu'il y a un jeu de mots sur « agapeo » et « phileo ». On a parlé tout à l'heure. C'est quoi « agapeo » ? Quand on dit « agapeo », on l'a dit, c'est le mot qu'on retrouve, Jean 3,16, « car Dieu a agapeo le monde qu'il a donné son Fils unique ». Jean va dire aussi dans sa lettre que Dieu est l'amour, Dieu est agapeo. Donc, qu'est-ce que c'est que agapeo ? Agapeo, c'est l'amour don, c'est l'amour qui n'attend pas en retour. C'est l'amour inconditionnel que le mari doit avoir sur sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Il n'aime pas parce que l'autre l'aime. C'est l'amour qui va jusqu'au don. Jésus dira à ses disciples, il n'y a pas de plus grand d'agapeo que de donner sa vie pour ses amis. Ça, on veut dire, c'est la définition ultime d'agapeo. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Agapeo, c'est l'amour ultime, l'amour don de soi. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a aimé. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tous les Chinois. Dieu aime tous les Arabes. Dans l'absolu, Dieu aime tout le monde. Question. Est-ce que tout le monde en retour aime Dieu ? Non. Elle est là, la subtilité. Agapeo. Agapeo, Dieu aime. Pas parce que tu l'aimes en retour. Dieu aime inconditionnellement tout le monde. Ça, c'est l'amour agapeo. Phileo, Jésus va dire, Jésus aimait Lazare. Tu savais ? Jean nous dit que Jésus aimait Lazare. Philéo. Lazare aimait Jésus. Philéo. Une réciprocité. J'aime mon fils. Mon fils même. Vous avez ce passage, le père aime le fils. Le fils aime le père, c'est évident. Philéo. Amour réciproque. Philéo. Vous avez les clés ? Maintenant, on relit le passage. Et je vais le paraphraser. Après le repas, Jésus demanda à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, es-tu prêt à donner ta vie pour moi ?» Agapéo. « Es-tu prêt à donner ta vie pour moi ?» Seigneur, t'as vu ce que je t'ai fait il y a 2 jours ? Franchement, enfin, il ne m'est pas fine bouche. Mais Jésus, justement, utilise ce verbe. Toi qui disais, « Seigneur, tu iras jusqu'à la mort, jamais de la vie, moi j'irai jusqu'à mourir pour toi. » Là, effectivement, il aurait été agapé au pierre. Il aurait certainement utilisé ce mot. Donc il dit, Jésus utilise volontairement ce mot. Mais vous voyez, si on met nous que aimer, on n'a pas la subtilité. C'est pour ça que je paraphrase. Si mon fils de Jonas, es-tu prêt à donner ta vie pour moi, agapéo, l'amour don de soi ? Et Pierre va répondre, Seigneur, tu sais que je t'aime. Donc Pierre va dire à Jésus, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il est évident que Pierre aime Jésus. Donc c'est un amour philéo. Il répond comme ça. Et la deuxième fois, même scénario, Simon, est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour moi ? Avec l'expérience qu'il a vécue, il ne peut pas prétendre dire ça. Il a renié le Seigneur 3 fois. Ça prouve qu'il n'était pas capable de dire agapéo. Et Pierre lui répond, Seigneur, je t'aime. Je sais que tu m'aimes en retour. Cet amour, en tout cas, entre nous deux. Mais je ne peux pas prétendre utiliser agapéo. C'est un niveau trop haut. Et 3e fois, Jésus lui dit, Simon, est-ce que tu me philéo ? Et là, Simon Pierre répond, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Il y a un amour entre nous deux. Vous voyez ? Mais ça, typiquement dans la traduction, c'est très difficile, à moins de faire de la paraphrase. Parce que philéo, agapéo, c'est 2 mots techniques. Mais quand vous avez compris que agapéo, c'est l'amour don qui n'attend pas en retour, c'est le don ultime, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je ne sais pas, la traduction anglaise dit quoi, s'ils utilisent 2 mots, like and love, peut-être, je ne sais pas, il faudrait regarder. En tout cas, en français, vous voyez que sur un texte comme ça, tellement riche, tellement profond, on a une déperdition terrible. C'est un choix. Je ne sais même pas si moi j'ai... En tout cas, il y aura une note qui le développe. Je vois que le temps approche. Oui, mais là, charité, c'est un vieux français. Aujourd'hui, c'est catholique. Mais c'est l'amour don. C'est l'éloge de l'amour. Agapéo. C'est le but à atteindre. Quelle heure il est ? Ouais. Alors on peut prendre des questions, peut-être surtout, là on peut déborder, si vous avez des questions qui peuvent déborder, allez, c'est porte ouverte.
On prend le micro. C'est toi. Merci. Alors quand Jésus il dit « aimez-vous les uns les autres », c'était l'amour philéo dans ce cas ?
Comme je vous ai aimé. Alors non. Je regarde, je te dirai tout à l'heure. Je regardais le grec. Mais avec ce que j'ai dit, tu dirais plutôt que c'est quoi ? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Qu'est-ce que Jésus ? C'est quoi l'amour que Jésus a eu ? Jésus nous a montré quoi en nous aimant ? C'est l'amour don. Ouais. Je vais vérifier, je te dirai.
D'autres questions ?
Moi, c'est par rapport au livre. Est-ce que le livre d'Enoch, il est dans les deux canoniques ? Je ne sais pas dire le nom.
Non, c'est encore autre chose, là, le livre d'Enoch. C'est marrant, c'est une question qui revient assez souvent, les livres d'Enoch. Enfin, j'écrive un article, un de ces quatre, sur ça. Mais non, il n'est pas considéré, c'est vraiment une littérature à part. C'est vraiment une littérature à part. C'est vrai qu'il y a un certain intérêt pour cette littérature, parce qu'on parle des Néphilim, il touche à des choses un peu mystérieuses. Tu as lu, ça t'intéresse ? Tu veux en savoir plus ?
Je ne l'ai pas lu encore, mais oui, ça m'intéresse. Maintenant, je me demande, est-ce qu'on peut en prendre compte ou pas ?
De toute façon, tu ne pourras pas, en le lisant, le mettre au même plan qu'on a dit du canon des Écritures. Il peut avoir un intérêt culturel, historique, pour ta culture générale, le lire. Au moins, tu sais, le jour où quelqu'un en parle, tu pourras dire, oui, je l'ai lu, je sais que ça parle de ça. Mais il faut être très prudent avec le contenu. Tu vois ? Je vais pas t'interdire, okay. Ne le lis surtout pas. Non, c'est par intérêt, par culture, comme les livres apocryphes. Prenez le temps de les lire. Il y a un livre apocryphe qui est le livre de Tobie. Il est très beau. On comprend quand on le lit. On comprend pourquoi il a pas été mis au canon. Pas besoin de faire des études pour comprendre. Mais quand vous le lirez, vous comprenez. Par contre, cependant, il y a une prière que Tobie va faire avant de s'unir à sa femme. Cette prière, elle est magnifique. Si au moins les maris faisaient cette prière, peut-être le soir des noces, ce serait déjà pas mal. Mais c'est une belle prière, bien construite. Et vous avez aussi le livre de... c'est Suzanne, qui est une belle histoire. Et vous voyez la sagesse de cette femme, un peu comme l'image de la sagesse de Salomon au niveau des deux enfants. Il faut les lire au moins une fois dans sa vie. Pas mourir moins bête. Mais par intérêt.
Pourquoi le livre de Maccabée est considéré apocryphe ?
Parce que, comme j'ai dit, il y a deux choses. C'est qu'ils ont été rédigés pendant les 400 ans du silence de Dieu. Donc ils n'ont pas l'esprit prophétique était parti d'Israël. Donc il n'y a plus de prophètes. Cependant, l'histoire d'Israël a quand même continué. Donc sur le plan historique, ce livre a un intérêt. C'est quand même le patrimoine, en même temps, c'est l'histoire d'Israël. Il a été mis, entre autres, je vais pas dire au canon, au deutéro-canon des catholiques, parce qu'il trouvait dedans le soutien pour la prière pour les morts, entre autres. Mais c'est de l'interprétation. Et il y a eu toute la question avec Luther sur les indulgences, sur le purgatoire. C'est pour ça que c'est tout intéressant de faire de l'histoire de l'Église et de comprendre pourquoi les catholiques, en réaction, c'est très important, c'est en réaction à la Réforme, en sont venus à mettre ces livres au deuxième canon. Beaucoup de choses dans l'histoire de l'Église sont en réaction. Il faut faire souvent attention dans nos comportements, je parle beaucoup de ça, c'est en fait quand on est en réaction à. Il faut faire attention.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui.
Et l'évangile de Marie et de Thomas ?
Il y a un document qui est introduction, c'est celui-là, introduction au livre apocryphe du Nouveau Testament. Je vous ai fait, c'est assez bien détaillé, vous le lirez. Il existe plein d'apocryphes du Nouveau Testament. Les actes de Thomas, l'évangile de Pierre, l'évangile de Barnabé, Hein ? Ouais. Donc il y a eu énormément de littérature qui sont le protévangile de Jacques, qui est là pour combler en même temps la naissance de Jésus, tout ça. Et on comprend quand on lit, s'il y a bien quelque chose que vous devriez lire par intérêt, c'est le protévangile de Jacques. C'est pas long. Il est considéré comme un apocryphe, Mais il est intéressant, parce que quand vous l'aurez lu, vous comprendrez beaucoup de choses du catholicisme. Et qu'en fait, les catholiques ont puisé beaucoup dans le protévangile de Jacques pour soutenir beaucoup de leur théologie. Et vous comprenez énormément de choses. C'est passionnant. Alors peut-être pour gagner du temps, vous allez sur Bibliorama et vous tapez protévangile de Jacques, je vous ai fait un raccourci avec le texte, et vous comprenez beaucoup de choses. Mais il y a eu, je vous ai tout listé, il y a eu énormément de choses. Mais ils n'ont pas été retenus, c'est très important. Je le mets à la fin, parce que c'est la raison, c'est pourquoi ces livres n'ont pas été retenus. L'Évangile perdu, enfin, il y en a énormément. Mais tout à la fin, en conclusion, c'est ouais, quel est l'intérêt de ces écrits, et je mets en fait pourquoi ces livres ne sont pas classés. Donc vous prenez le temps de le lire et vous trouverez les réponses nécessaires. Mais comme on a dit au départ, au niveau du canon, c'est que ces livres-là, quand le canon a été fixé à la lettre d'Athanase, ces livres-là existaient. Donc il a fallu choisir, trancher, pour dire ces livres-là, nous les reconnaissons comme inspirés, ces livres-là, nous ne les reconnaissons pas comme inspirés. Et il y a eu toute la discussion de la gnose, qui était un véritable fléau du temps, même de Paul. Paul va combattre ça chez les Colossiens. Donc déjà, dans les années 60, la gnose infectait l'Église. Et il y a eu toute une littérature de la gnose, dont l'évangile de Thomas. L'évangile de Thomas, qui est infecté par la gnose. Enfin, il faut le lire, mais on en rigole aujourd'hui. Mais il y a un retour. Il y a un retour de cette gnose évangélique aujourd'hui dans les milieux. Et il faut vraiment veiller. Il faut veiller. Parce que j'ai les oreilles, comme je connais beaucoup de gens, et je vois vraiment ce fléau de la gnose qui revient. Je me dirais, gnose, qu'est-ce qu'il raconte, tout ça. C'est subtil. C'est tout l'intérêt de faire, je dirais, un minimum de théologie pour connaître. Les hérésies qui ont eu lieu au 1er siècle ressurgissent toujours. Les mêmes erreurs qui ont été faites, toujours d'une manière sporadique au fil de l'histoire de l'Église. On n'a rien, on n'invente rien. Toutes les hérésies liées à Christ qui ressurgissent aujourd'hui ont été combattues au 1er siècle. C'est tout l'intérêt d'étudier. Quand vous parlez avec les gens, vous lisez un livre, là la traduction, je montrais Généa, c'est une traduction qui ne croit pas à l'éternité des pécheurs. Vous savez, quand je vous ai dit tout à l'heure, les perdus vont pour l'éternité en enfer. Soit vous basculez dans l'annihilationnisme, c'est-à-dire que quand vous êtes à la fin, vous êtes détruit, rien qu'existe, ou alors il y a une forme de purgatoire, mais au final, tout le monde sera sauvé. C'est ce qu'on appelle l'universalisme. Et ça revient en force aujourd'hui dans les milieux évangéliques. Hein. Même des amis pasteurs qui... Ouais. Et donc, face à cet universalisme, et il y a des traductions qui vont dans ce sens-là, où ils diront, par exemple, « Allez-vous-en, maudits, dans le feu d'un temps.
Ouais. » Oui, pour ajouter à ce qu'il dit, pour que vous compreniez la traduction, parce que j'ai peur qu'il y en ait certains d'entre vous qui vous disiez, mais alors comment on peut être sûr? Il n'y en a pas comme ça dans leur tête, du coup. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si je vous dis sabot, là, aujourd'hui, dans votre tête, si je vous dis un sabot, vous voyez quoi? Le sabot. Au niveau de la chaussure. Si je vous parle de la chaussure sabot, vous voyez quel genre de chaussure? Pardon, je reformule ma question. En bois, un truc comme ça, c'est bon? Ça, vous le comprenez aujourd'hui. Mais si on se parle au Moyen-Âge, le mot chaussure n'existe pas, ça se disait le sabot, d'accord? Donc on disait « mets tes sabots », c'est « mets tes chaussures ». Mais aujourd'hui, le mot « sabot » a changé. Vous voyez de quoi je parle? Donc quand quelqu'un traduisait à l'époque quelque chose, il le traduisait à partir aussi de la connaissance du mot de son temps à ce moment-là. Donc que vous soyez rassurés que, en fait, quand il parle à un moment donné de la Bible inclusive, c'est parce qu'on a quelqu'un qui est complètement en train d'être influencé par ce qu'elle est aujourd'hui. Donc du coup, on voit plusieurs traductions, mais il a mis l'année à côté. Parce qu'on comprend pourquoi Martin le traduit comme ça et pourquoi un autre le traduit autrement. Vous voyez que parce que du coup, les musulmans, je vais rejoindre Sherazade, leur argument contre nous, c'est quoi? Vous avez 10 000 Bibles. Et c'est laquelle la bonne, hein, c'est ce qu'ils disent. Donc vous vous repositionnez en disant, ben, en fait, on retraduit avec notre époque, la compréhension, et c'est bien aussi. Mais le mieux, c'est toujours, comme il disait, de retourner au grec original, mais ce grec original a été écrit aussi à une période, donc il faut comprendre cette période. Le mot qui est dit à ce moment-là, c'est pas la même chose. Vous voyez, par exemple, au Québec, ils disent, pour une voiture, ils disent la carriole. Pour vous, c'est quoi la carriole ? C'est une charrette avec des chevaux. Mais c'est important de comprendre, parce que comme j'étais prof d'anglais, la linguistique, ça m'a beaucoup aidé, la Bible. Donc là où il vous montre, c'est que vous compreniez que le christianisme, il a aussi avancé avec son temps, avec ses traducteurs, mais aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a, on peut, comme il dit, normalement se rapprocher le plus près possible. Mais il y a des gens, le traducteur reste un humain, et donc l'humain, il peut y mettre... On a cette fille qui est féministe, elle n'a qu'une envie, c'est de mettre son féministe en traduction. Franchement, pour être un bon traducteur, et c'est pour ça que je t'honore aujourd'hui, il faut avoir le cœur pur. Il faut vraiment dire, je veux que le texte. Et quand j'étudiais tout ce qu'était la femme, je redemandais des fois à Alexandre, et j'ai bien aimé parce qu'il n'a jamais été dans un féminisme poussé. Vous voyez, il m'a toujours ramené à dire, pour moi, ça dit ça et ça dit que ça. Mais ça, ce n'est pas facile. Et c'est pour ça que Saint Jérôme, qui a été le premier à traduire la Bible Vulgate des cathos, moi, j'ai apprécié qu'il ait dit aux cathos, ça, c'est des livres apocryphes. Et je vais les mettre à la fin du bouquin, et je vais mettre une petite note en disant que ce n'est pas des livres inspirés. Donc aujourd'hui, quand un catholique vous dit qu'ils ont 73 livres, vous pouvez leur répondre, comme on peut répondre aux musulmans, attention, ce n'est pas tout à fait ça, il n'y a pas 73 livres révélés. Il y en a 66, et votre traducteur officiel, Saint Jérôme, lui-même l'a dit. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que c'est important de connaître vraiment la... Je ne sais pas comment dire, la touche d'un traducteur, parce que nous en anglais, moi en traduction en anglais, des fois j'ai été frustrée des prédications qui étaient prêchées, parce que je me traduis, je me disais, c'est pas ça qui est dit. Et donc je pense que lui doit vivre ça tout le temps avec la Bible, de se dire, mais.
Tu interprètes,
ouais, c'est ça. Donc c'est ça qui est. Il faut toujours avoir l'humilité de se dire que c'est une traduction, et puis il faut essayer. Moi je sais que je vais toujours dans la Strong, revoir le mot grec, et j'aime bien. Et j'aime bien me dire, bon, ben, ça veut dire ça et pas plus. Et spécialement quand on est en 2025, où on veut la liberté pour tout le monde et tout le monde, ben, la Bible, des fois, elle dit ça. Et elle dit bien ça. Par exemple, il y a des gens, ils ont changé un peu le terme. Femme, soyez soumise à votre mari. Ben, c'est bien le mot soumis. Et c'est pas le mot...
C'est la discussion que j'ai essayé de mettre dans la traduction. Et j'ai fait trois propositions.
Faut que tu mettes ton micro.
J'ai fait trois propositions et qui a été à l'unanimité adoptée par les hommes et les femmes. Ces femmes... Placez-vous sous l'autorité de votre mari. C'est un peu plus sympa que femme, soumettez-vous.
Mais d'ailleurs, le verbe lui-même, c'est une action volontaire de la
c'est
personne.
C'est ça. Alors, il faut le développer.
Donc, c'est juste, du coup.
Il faut le développer. Il y aura là, tout l'intérêt dans la note d'expliquer. C'est un choix de traducteur. Mais si je dis femme, soyez soumis, vous savez, même le soyez soumis, c'est.
La soumission personnelle.
À rigueur, femme, soumettez-vous, il y a une part de responsabilité d'elle.
De la femme.
Femme, soyez soumise. Femme, soumettez-vous. Mais femme, soyez soumise, c'est l'homme qui donne l'ordre. Enfin, soyez soumise. Mais pour casser un peu, sinon, si je reste entre ces deux-là, ça, voilà. Après, il faut faire toujours le danger de pas... Mais moi, j'ai opté pour cette traduction. Femme, placez-vous sous l'autorité. C'est qu'en même temps, il y a une volonté de se placer. C'est pas, moi, je te dis que tu dois. C'est sa responsabilité de se mettre.
Et par ça responsabilise. Par rapport au catholicisme aussi, juste une autre chose, parce que je pense que, enfin, il y en a quelques-uns et vous venez du catholicisme. Ça, moi, un truc qui m'a ouvert les yeux, c'est qu'il y a toujours eu, 66 livres, mais quand il y a eu la réforme et tout ça, l'Église catholique, par orgueil, a dit nous aurons un livre le plus gros qu'eux. Et ils ont validé les apocryphes. Vous comprenez le péché qui est derrière. C'est-à-dire, on a la, comment dire, c'est pas que des erreurs de traduction, en fait, comme il a dit. C'est le cœur de l'homme qui est pourri. Mmh. Dieu, il veille sur sa parole. Donc, en fait, on a eu une Église catholique qui, à un moment donné, a vu le protestantisme dire on va revenir à la parole et à la parole seule et ce sera ça. Et eux, ils ont paniqué et ils voulaient établir. Ils ont dit on va même leur dire, en gros, je vous résume, hein, on va même leur dire que notre Bible à nous, elle est plus grosse que la leur. Et là, à ce moment-là, ils valident les apocryphes. Mais jusque-là,
non, c'est le Concile de Trente.
Voilà, c'est le Concile de Trente qui ils vont le valider à ce moment-là. Donc, vous voyez, la main malicieuse de l'homme là-dedans, en fait. Et d'ailleurs, comme il a dit, c'est dans les apocryphes que vous retrouvez la prière aux morts et tout ça. Un catholique,
voilà, purgatoire.
Le purgatoire vient des apocryphes. Vous voyez, donc c'est là où on voit que ça... ça dévie. Mais un vrai, vrai, vrai théologien catho, il est au clair que c'est des apocryphes.
Mais
un vrai.
Le mot, c'est deutérocanonique.
Oui, venu après.
C'est-à-dire, c'est un deuxième canon. C'est important d'utiliser des mots justes pour pas en même temps faire dire aux catholiques ce qu'on ferait pas. Il y a eu effectivement un schisme à la réforme qui a terriblement déchiré l'Église, mais on va pas refaire l'histoire de l'Église, mais il faut comprendre dans le contexte dans lequel ça s'est fait. Je crois que dans le document que vous avez, vous le lirez, tout ça je le développe, j'en parle pour expliquer.
Et c'est pour ça, cher Azad, que les musulmans notre péché nous coûte cher. Hein. Les musulmans, ils vont dire, nous on a un Coran et vous avez deux Bibles. Donc il faut savoir leur répondre et leur dire, ah non, on a une Bible et on a toujours eu qu'une seule Bible. Et d'ailleurs, dans les...
Oui.
Voilà, c'est important parce qu'ils jouent là-dessus. Et ils ont raison de jouer sur nos péchés. Voilà, nos péchés nous ont coûté cher. Hein. L'Église, évitons de faire des erreurs parce qu'après on le paye. C'est tout bon là? Ouais. Vas-y, c'est toi qui clôture.